Alors, c'est une grande joie de vous accueillir ici. Vous êtes pour nous tous le témoin de la tradition vivante ici en France. Et vous accueillir alors que nous accueillons notre maître, c'est rendre vivant ce que vous avez depuis si longtemps fait pour la France, faire se rencontrer la sagesse d'Orient et celle d'Occident. Merci d'être avec nous. Au cours de notre réunion, que nous ferons comme d'habitude, où vous pourrez poser des questions à Swamiji. Swamiji, en plaisantant tout à l'heure, a dit à Arnaud qu'il lui laisserait les questions difficiles et qu'il prendrait pour lui les questions les plus faciles. En étant bien entendu, et Arnaud l'a souligné, que vous veniez ici pour écouter Chandra Swami, nous serions néanmoins très très heureux si à un moment ou un autre, Arnaud voulait aussi nous faire partager ce qui constitue l'essence même de sa vie aussi. Et de temps en temps, le merveilleux musicien qu'est Paul, et que nous remercions aussi très profondément d'être ici, nous offrira quelques rags ou quelques makas dont il a le secret. So, Michi, I just in few words welcome Arnaud to be. Si vous voulez poser des questions, ceux qui possèdent l'anglais, posez la question en anglais à Swamiji et posez-la ensuite en français. Et ceux qui ne possèdent pas l'anglais, posez-la en français assez lentement pour me donner le temps de la traduire à Swamiji. Quand vous voulez.
Il paraît que le temps est notre ami.
It is said that time is our friend. My master says so. I would like to know how to make from the time of separation, what I experience as the time of separation, a friend. When this ce sentiment d'urgence, while this feeling of urgency is burning me, how to make of this time, which I feel as time of separation, a friend, when this feeling of urgency is burning me. This world is... Le temps est ce monde. Ce monde est le temps. Il peut être un ami du chercheur. Il peut être un ennemi du chercheur. Si et lorsqu'un chercheur fait de ce monde une école... Une école où le chercheur doit apprendre et grandir dans la vérité et la conscience, le monde devient un ami. Si et lorsque le chercheur fait de ce monde un lieu où il essaie de jouir simplement des plaisirs des sens, alors le monde définitivement prouve être un ennemi. Je citais hier ce roi devenu un saint, et en référence à ce qui avait été dit à propos du désir. Dans le contexte de cette question sur le temps, je me souviens à nouveau d'un couplet de ce roi qui dit « Jusqu'alors, je pensais que le temps passait. J'étais un fou. Mais une nouvelle révélation m'est apparue. Le temps ne passe pas. C'est moi qui passe. Les jours seront là et les nuits aussi. Mais moi, je serai passé. » Le chercheur fait de ce monde une école. Il ou elle fait des expériences avec vigilance et attention. À ses expériences, réfléchit sur ses expériences, les tamise, les trie, et ainsi il apprend et il grandit. Le temps est ce monde est le temps. Il peut être ami du chercheur, il peut être ennemi du chercheur. Lorsqu'un chercheur fait de ce monde une école où le chercheur doit apprendre et grandir dans la vérité et la conscience, alors le monde est un ami. Lorsque le chercheur fait de ce monde un lieu où il essaie seulement de jouir des plaisirs des sens, alors définitivement ce monde prouve être un ennemi. Je citais hier ce roi devenu un saint en référence à ce qui avait été dit à propos du désir. Dans le cadre de la question présente sur le temps, je me souviens à nouveau d'un couplet de lui qui dit « Jusqu'alors, je pensais que le temps passait. J'étais fou. Une nouvelle révélation m'est apparue. Le temps ne passe pas, c'est moi qui passe. Les jours et les nuits seront là, mais moi, j'aurai disparu. » Le chercheur fait de ce monde une école. Il fait des expériences avec vigilance et attention. Réfléchit sur ses expériences, les trie, et ainsi il apprend et grandit.
Vous avez dit entre la conscience et la situation. Alors d'abord, il faut être très d'accord sur le sens que nous donnons tous au mot conscience, éventuellement au mot anglais consciousness. Parce que le sens peut être très différent suivant les sources, hindous ou bouddhistes, ou suivant les auteurs. Est-ce que nous entendons par conscience la conscience pure, vide, ou l'esprit pur, vide, ce qu'on traduit aussi parfois en anglais par awareness? Ou est-ce que nous entendons par conscience la succession des états d'âme, des états d'esprit, des pensées, des prises de conscience? Ça, c'est un premier point sur lequel il peut y avoir des malentendus. Par exemple, si vous lisez les traductions en anglais de Nisargadatta Maharaj, consciousness signifie toujours la conscience limitée, c'est presque synonyme de mind. Dans d'autres cas, consciousness signifiera, impliquera une pure conscience. Alors, la vérité, c'est qu'il y a, en essayant de s'exprimer quand même simplement, la pure conscience, la situation, il pourrait n'y avoir que cela. L'image tellement souvent utilisée, un miroir et tout ce qui se réfléchit dans le miroir, sans laisser de traces sur le miroir. Seulement, dans les conditions ordinaires, il y a quelque chose en plus. On pourrait même dire quelque chose en trop. C'est ce quelque chose en plus ou en trop qui peut disparaître. Qui peut soit disparaître définitivement, soit disparaître par intermittence, qui, à défaut de disparaître, peut être plus ou moins affirmé et grossier, ou plus ou moins effacé et subtil. Et c'est ce quelque chose qu'on appelle communément ahamkar ou l'ego, c'est-à-dire moi. Alors, tous les problèmes, une bibliothèque entière d'ouvrages sur la psychologie, sur les idées préconçues, sur les émotions, sur les vasanas, sur les samskaras, tout est contenu dans ce simple petit mot de 3 lettres en anglais et 3 lettres en français. Moi. Donc la vraie grande question, la vraie grande poursuite, quelle que soit la manière dont on s'y prenne, plus ou moins directe, plus ou moins rapide, quelles que soient les tâches annexes que cette démarche puisse exiger au passage, la tentative, c'est qu'il n'y ait plus cet égotisme ou égocentrisme ou cet écran entre la conscience et ce que vous appelez la situation, c'est-à-dire les formes tout le temps changeantes. Et il y a bien des moments, et on y ressent toujours comme des moments de grâce et de bénédiction, où ça nous est donné. C'est une expérience que nous avons probablement, certainement même tous faite, mais dont on ne tire pas l'enseignement. Où pendant un instant, on n'est plus là. Il y a une conscience parfaitement lucide, tout est vivant, mais momentanément, nous sommes libérés ou débarrassés de moi-même. Et cette tentative d'effacement, elle est possible plus tôt qu'on ne le croit. Je ne dis pas de s'établir dans cet effacement, de cet ego qui est en trop, en plus, inutile, complètement, surajouté. Je ne dis pas qu'on peut s'établir dans cet effacement. Mais avoir un avant-goût de cet effacement et la nostalgie de cet effacement, souhaitons que ça vienne le plus vite possible. Et là, c'est un changement d'attitude intérieure qui, au moins théoriquement, est tout le temps à notre disposition. Où je suis là. Et inévitablement, le passé, les impressions, les peurs, les désirs, le conscient, l'inconscient, tout est là. Ou bien, j'essaie de ne plus être là. C'est-à-dire d'être aussi vide, silencieux, effacé que possible. Pour reprendre une parole que vous connaissez sûrement et que j'ai citée des milliers de fois de Swami Prajnanpada, non pas « je regarde l'arbre », mais « l'arbre est regardé ». Vous pouvez tenter en face de quelqu'un, non pas « j'écoute Catherine », mais « Catherine est écoutée ». Et puis nous voyons que ce moi ou ce je revient immédiatement à la surface, et puis s'efface un peu, et revient à la surface, et s'efface un peu. Je ne dis pas qu'à soi tout seul, ça puisse consister toute la sadhana, mais ça nous donne tout de suite un avant-goût, un pressentiment de ce vers quoi nous allons. Sinon, il y a le risque de ne que la mise en cause radicale de l'ego soit toujours pour demain. C'est-à-dire, quand les mécanismes distordus de l'ego auront disparu, je m'intéresserai à l'effacement éventuel de l'ego. Et pour moi, c'est fondamental de s'ouvrir à cette idée le plus vite possible sur le chemin. Et pas penser que c'est uniquement réservé à quelques... qu'on ne peut s'y intéresser que si on avait la folle ambition d'égaler les plus grands sages de l'histoire. Et là, il y a une petite difficulté de vocabulaire, qui n'est pas une difficulté majeure, c'est que le Vedanta s'exprime certainement en termes positifs. Aham, je. Aham asmi, je suis. Aham brahmasmi, je suis Brahma. Et il faut faire tellement attention à ce que ce je ne soit pas récupéré par l'ego. Et c'est à cet égard que les bouddhistes sont intransigeants pour qu'il n'y ait pas de récupération du pur « je suis » par l'ego. Ils refusent cette manière de s'exprimer. Et un hindou s'exprimera facilement, ou un français se réclamant du Vedanta, en termes de présence. Purnam, le plein. Aham, aham asmi, je suis. Et un bouddhiste ne s'exprimera qu'en termes d'absence. Il s'agit d'une disparition. Mais en fait, c'est l'essentiel du chemin. C'est cette disparition de ce qui est. Mais complètement trop, complètement inutile. Et il n'y a pas d'autre solution que cette disparition. Ah, je ne réponds pas tout à fait comme je vous aurais répondu il y a 3 ans.
I would like to ask Swamiji what the tradition means by right thinking. In my experience, to think is more or less something that happens to me. And I don't understand which way it can be more or less right. Yes? You mean it should be asked to Arnou?
He says your answer.
Il m'avait eu là. La pensée ou le verbe penser, c'est comme le mot mind en anglais, ça peut avoir tellement de sens et de contenu différents.
It's like the word mind in English, it can have so many different meanings.
Le gourou hindou dont je me réclame avait une habileté de vocabulaire que j'ai trouvé moins efficace consistant à à utiliser deux termes différents pour la pensée subjective, déformée, qui tend plus ou moins la rigueur de la réalité. Il disait penser, le verbe penser. Et pour ce que nous appellerions une pensée juste, rigoureuse, traduisant plutôt Bouddhi, l'intelligence que Manas, il disait voir. Et à propos de quoi que ce soit, une situation extérieure ou un vécu intérieur, nous pouvons être en prise directe avec la réalité en tentant et peut-être en réussissant à éliminer le filtre du mental et de l'ego, auquel cas nous voyons. Je dis bien, ce terme « voir » sera utilisé pour penser intelligemment. L'abouti. Il y a au-delà de l'abouti, ce qu'on appelle le plus souvent « prajna », sagesse. Si nous pouvons adhérer à la réalité ou à la vérité, en donnant au mot « vérité » le même sens que « réalité », « sat » et « satya », ce qui est. Rien que, comme on dit en justice, rien que la vérité, rien que ce qui est, toute la vérité, tout ce qui est, à ce moment-là, nous voyons. Si nous quittons tant soit peu la réalité, si nous extrapolons, si nous confondons ce qui est certain avec ce qui est possible ou probable mais pas certain, si nos émotions, notre inconscient se projettent, nous ne voyons plus, nous pensons. On peut penser brillamment, mais être à côté de la vérité. Alors, il est vrai que notre passé, nos prédispositions, notre inconscient même, certaines forces d'inertie des habitudes émotionnelles et mentales nous ramènent dans ce fonctionnement distordu que nous appelons pensée. Et le meilleur point d'appui, c'est la réalité relative elle-même. Le célèbre ici et maintenant. Adhérer, comme les pneus d'une voiture adhèrent à la route, adhérer au ici et maintenant tel qu'il est. Ceci n'a rien d'original, c'est un enseignement universel. Avec l'insistance sur le ici et maintenant. Alors, dans cette petite subtilité de vocabulaire, cette distinction entre penser à propos d'eux ou voir ce qui est, nous admettons que même ici et maintenant, je peux utiliser ma mémoire. Ce n'est pas gamberger au sujet du passé, c'est tout simplement revoir ce qui s'est produit, aussi objectivement et lucidement que possible. Je peux aussi tenir compte du futur, c'est-à-dire prévoir. Mais sans qu'il y ait déformation de la réalité par les deux fonctions manas et chitta qu'on peut traduire par mental et psychisme. Et ce sur quoi je veux simplement insister, c'est que notre plus grand allié pour lutter contre les déformations du mental, c'est de nous soumettre sans cesse et toujours plus à la réalité la plus simple, la plus banale, la plus immédiate, et donner toute la solennité et la grandeur que nous pouvons mettre dans le mot vérité, le donner à chaque détail, à chaque instant de l'existence. On ne peut aller à la vérité avec un V majuscule que par toutes ces petites vérités de l'instant, même celles qui ne nous conviennent pas, même celles qui nous contredisent et même celles qui font plus que nous contredire, celles qui au premier abord nous font vraiment mal. Voilà, je partage avec vous une aide qui a été très réelle pour moi, c'est cette distinction entre penser, en donnant au mot penser un sens critique, et voir. Not thinking, but seeing. Voilà ce que je peux répondre à peu près brièvement. Ne me posez pas trop de questions, vous me frustrez, moi, des réponses de Chandraswami.
Don't ask me too many questions because you are frustrating my sense of Swamiji's answers.
Mm-hmm.
Could I ask a question to Arnaud?
Il y a dans la tradition une expression qui
There is an expression in the Buddhist tradition which is related to the beginner's mind.
I am not so sure to be a beginner because I am under the feeling. I have the feeling to make of spiritual life an accumulation. How to keep the beginner's mind?
Je ne crois pas que ce soit possible de garder l'esprit du débutant.
I don't think it's possible.
Ce sera possible au bout d'assez longtemps, peut-être même longtemps, de le retrouver.
It will be possible after a long time to find it again.
C'est pratiquement inévitable que nous cherchions à, comme vous dites, à accumuler.
That we try to accumulate.
Parce que nous portons tous ce besoin de croissance ou d'expansion. Alors la grande question, depuis toujours, c'est est-ce que cette croissance ou cette expansion se fera dans le monde de l'avoir ou dans la ligne de l'être?
Et
être, c'est être libre d'avoir, libre de l'avoir. Mais pour sentir que cette croissance de l'avoir, qui en fait n'est pas une croissance, mais une accumulation, n'est pas ce que nous voulons vraiment, il faut avoir l'expérience décevante d'un certain nombre d'accomplissements dans la vie ordinaire. Alors certains voudront accroître sa célébrité, sa notoriété, son prestige, ses moyens financiers, et un autre voudra accroître le nombre de ses expériences spirituelles, son savoir spirituel. Il y a sans aucun doute le danger inévitable, sinon pour tous, du moins presque tous, de s'engager dans la ligne spirituelle et en même temps dans cette ligne d'accumulation. Alors on peut accumuler les lectures, les pratiques, les exercices de toutes sortes de sources, les rencontres, les bénédictions, sans que notre être soit vraiment changé, puisqu'il s'agit en vérité d'un lâcher, d'un dépouillement, d'un dénuement. Mais ne vous troublez pas. Je crois pouvoir dire que c'est un passage pour tous. Simplement, il durera plus ou moins longtemps. Et si vous avez ce besoin, ne le niez pas, ne le réprimez pas, au contraire, comblez-le. Et puis vous verrez peu à peu que quand on a lu 2000 livres, il en reste encore 100 000 à lire. Alors, et quand on a rencontré 30 Mahatma Rinpoche célèbres, il y en a encore d'autres à rencontrer. Ou pourquoi pas tel grand spirituel amérindien? Bon, ben, là aussi, ça tombe.
Vous voulez un petit peu de musique ?
Traduisez-les en français pour les voir. Si vous voulez les adresser à Arnaud, vous le pouvez également, vous l'avez déjà fait ce matin. Je ne sais pas si Louis accepterait éventuellement d'être sollicité pendant l'entretien. Mais je pense, si vous voulez également poser des questions à Louis.
I spent 4 years in the ashram of Bhagwan Sri Rajneesh. I spent 4 years with Bhagwan Sri Rajneesh in India until the ashram closed in 1981. Since that time, there's been events which, as far as I have been able to understand it, I find very difficult to reconcile with my experience. And what I feel now, still in my heart, is a debt of gratitude towards him and towards what I was able to give there, which was very rich and very clear. And I've tried to reconcile myself with what I've heard.
Sentiment que Swamiji a mis une nouvelle dimension à l'enseignement. Le suspense.
A thriller?
Yeah, suspense.
A new dimension to teaching.
I think he has brought a new dimension to the teaching. The suspense.
Les gens, pour la plupart, croient en l'existence de Dieu et croient que même une simple feuille ne peut bouger sans sa volonté. Mais vous voyez tant de choses arriver en ce monde que la pensée analytique, le mental raisonnant, ne peuvent jamais accepter comme venant du divin, comme ayant le divin pour auteur de tels événements. Un tremblement de terre surgit et des milliers de centaines de personnes, à la fois vertueuses et soi-disant pécheresses, croyantes et non-croyantes, rencontrent le même destin. Une énorme inondation arrive et emporte toutes les plantations que de pauvres fermiers avaient plantées, causant ainsi une condition de famine dans la région. Dans certains lieux où il n'est pas besoin de pluie, il pleut tant et tant, et en d'autres lieux où on a un besoin véritablement urgent d'eau, il n'y a pas une seule goutte d'eau qui arrive. Comment pouvez-vous expliquer cela? Comment pouvez-vous expliquer toutes ces choses comme arrivant par la volonté du Seigneur? La vérité est que vous ne pouvez connaître le travail, les actions du Seigneur, à moins que vous ne connaissiez et réalisiez directement la conscience divine. Il en va de même avec le comportement extérieur d'un réalisé ou d'un éveillé. Vous ne pouvez jamais juger les actions d'un réalisé à moins que vous ne connaissiez d'abord directement l'état de conscience à partir duquel ces actions ont jailli. Il est difficile de juger les autres avec vos esprits qui sont conditionnés et pleins de j'aime, j'aime pas, d'attraction, de répulsion. Même dans certaines traditions soufis,
les soufis ont fait semblant de prétendre à une sorte de comportement blâmable pour garder les incompétents et ceux qui ne le méritaient pas loin d'eux. Il a eu le besoin d'être troublé au-dedans de vous. Vous devriez maintenir la mémoire de ces expériences inspirantes et élevées que vous avez eues dans la présence de Bhagwan Ajneesh et oublier ou ignorer le reste. Gardez votre esprit calme et composé, recueilli. Et votre cœur plein d'amour pour tous et chacun. Cela vous aidera à grandir dans l'amour, la vie et la lumière du divin. Oui. Question for Swamiji. Tu poses en anglais?
Swamiji, you spoke yesterday about being conscious in while eating or while walking. Can you please explain us exactly what you mean by being conscious? And what is the relationship between one with watching the thoughts in your meditation? Samedi, vous avez parlé hier d'être conscient quand on mangeait, quand on se promenait. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce que vous pensez par être conscient et quelle est la relation, s'il y en a une, avec l'observation des pensées en méditation?
It's something about some question about what. You are eating, but your mind. Mais votre esprit pense à la course de chevaux dans laquelle vous avez fait des paris. Manger est alors accompli mécaniquement. Vous n'êtes pas conscient que de la nourriture est absorbée. Vous êtes assis à la mosquée ou dans un temple et vous récitez Tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon ami, mon trésor précieux. Mais votre esprit et votre œil intérieur est sur vos chaussures pendant que vous récitez. Parce que les chaussures sont quelquefois volées à l'extérieur des temples. Qu'est-ce que vous faites? Priez-vous vraiment? Votre attention n'est pas dans l'acte qui est en train de s'accomplir. La pensée est une activité subtile et raréfiée. Si vous ne pouvez pas demeurer attentif pendant les activités concrètes, comment pourrez-vous être attentif à vos pensées? Vous devez pratiquer l'attention et la vigilance dans toutes les activités quotidiennes afin d'être capable d'observer vos pensées qui sont subtiles. D'abord, votre pensée ne devrait pas être mécanique. Vous avez certainement remarqué que pendant la méditation, vous commencez à entretenir même ces pensées que vous ne voulez pas entretenir. Non seulement vous devez être attentif à vos pensées, mais au processus. Mais le processus de la pensée doit s'arrêter. Non seulement vous devez être attentif à vos pensées, mais le processus de la pensée doit s'arrêter. Vous devez observer vos pensées comme un témoin, sans devenir identifié avec elles. Par cette pratique de l'observation, les pensées commencent à disparaître. En français. Vous êtes en train de manger, mais votre esprit est aux courses de chevaux dans lesquelles vous avez fait des paris. Manger est alors accompli mécaniquement. Vous n'êtes pas conscient que de la nourriture est absorbée. Vous êtes assis dans une mosquée ou un temple et vous récitez « Tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon ami, mon trésor le plus précieux. » Mais votre esprit et votre œil intérieur sont sur vos chaussures pendant que vous récitez. Parce que les chaussures qu'on laisse à la sortie ou à l'entrée des temples sont souvent volées à l'extérieur des temples. Que faites-vous? Priez-vous vraiment? Votre attention n'est pas dans l'acte qui est en train de s'accomplir. La pensée est une activité subtile et raffinée. Si vous ne pouvez pas demeurer attentif dans les activités concrètes, comment serez-vous attentif à vos propres pensées? Vous devez pratiquer l'attention et la vigilance dans toutes les activités quotidiennes afin d'être capable d'observer vos pensées qui, elles, sont subtiles. D'abord, votre pensée ne devrait pas être mécanique. Vous avez certainement remarqué que, pendant la méditation, vous commencez à entretenir même ces pensées que vous ne voulez pas entretenir. Non seulement vous devez être attentif à vos pensées, mais le processus même de la pensée doit s'arrêter. Vous devez observer vos pensées comme un témoin, sans devenir identifié avec elles. Par cette pratique de l'observation, les pensées commenceront à disparaître. I would like to ask a question to Arnaud.
Je ne suis pas sûr de comprendre parfaitement La fin de votre question.
Est-ce qu'on met plusieurs années à retrouver cette qualité de conscience parce qu'il y a un relâchement d'ego à cette vigilance, ou est-ce que c'est simplement, j'allais dire, un état de grâce qui permet de vivre l'expérience et puis qui
est-ce true welcome to grace that you find this beginning state?
L'expression « beginner's mind » n'est pas de moi. Utilisée, puisque c'est sur ce thème que la question avait été posée. Mais c'est vrai que à mesure qu'il y a un risque, à mesure qu'on progresse sur la voie, de ne pas garder l'enthousiasme du nouveau venu sur la voie et la conviction du nouveau venu qu'il a tout à apprendre et tout à découvrir, de commencer à prendre une mentalité, je dirais presque de sociétaire à part entière, bien installée sur le chemin, et que la pureté des débuts peut s'atténuer, mais c'est presque inévitable. Alors quand vous dites, est-ce qu'il faut... la manière dont vous êtes exprimé pouvait sembler qu'il y avait à atténuer la vigilance. Il n'y a certes pas à atténuer la vigilance. Il y a simplement à ressentir peu à peu une souffrance, que les années passent et qu'on ne progresse pas plus en fin de compte. De se rendre compte, mais je deviens un habitué du chemin, j'en connais le vocabulaire, j'ai eu des expériences, j'ai lu beaucoup, j'ai fait des rencontres. Mais dans la profondeur de mon cœur, il y a une qualité, une pureté, une simplicité qui manque. Je dirais, il naît à ce moment-là une immense soif de simplicité, de se retrouver, comme dit l'Évangile, pareil à un petit enfant. Et on comprend que, et on comprend par l'expérience, ça vient de la profondeur, qu'en fait, tout repose sur la manière dont nous allons pouvoir lâcher prise, détendre, ouvrir. Et il existe bien quelque chose qui correspond à ce que vous appelez la grâce divine, même si l'on est engagé sur une voie dite non dualiste, comme le bouddhisme, le Vedanta strict, on ne fait pas intervenir un Dieu personnel. La grâce divine, c'est le fait même que la réalité ultime est déjà en nous, que nous n'avons d'être, de conscience, de vie que par cette réalité ultime. Peu à peu, par notre expérience, par nos déceptions, aussi, par la souffrance de ne pas progresser plus, je le disais tout à l'heure, l'esprit de la démarche change. Nous ne cherchons même plus à être un bon disciple au sens de bon élève, consciencieux, appliqué, qui met vraiment en pratique l'enseignement. Nous essayons simplement de nous abandonner de plus en plus et de nous ouvrir de plus en plus. Quel que soit le terme par lequel nous désignons cette réalité à laquelle nous nous abandonnons de plus en plus.
Vous avez un moment pour qu'on vous chante quelque chose, ou vous voulez
Oui.
Est-ce qu'on peut chanter Amen Allah sans Pierre? On peut le faire, ou oui. Shalom Amen Allah? On fait oui, là,
quand il y a des enfants dans la salle et qu'ils poussent des petits cris, des petites choses comme ça pendant les darshan, ça dérange pas, Swami Ji. Si évidemment c'était des hurlements où on s'entend plus, bon, c'est différent. Mais des petits mouvements d'enfants dans la salle n'ont jamais dérangé en Inde les satsangs. Il n'y a aucune raison que ça le dérange ici. Ça c'est pour les enfants. Donc que les parents se rassurent, que les mamans soient tranquilles. La deuxième chose, il devait venir cet après-midi un musicien indien. Est-ce qu'il est ici?
said first that the Indian musician would be
des questions.
Oui.
I would like to ask Swamiji. I would like to know how does a master recognize his disciple? And if that recognition is at one moment on both sides, and to finish with, can the disciple recognize two masters or even more? It is as pour un disciple de connaître complètement et de reconnaître le maître qu'il lui est difficile de reconnaître Dieu. Le disciple peut réfléchir et trouver ce qu'il obtient, ce qu'il gagne de l'enseignement et de la présence du maître. Le maître se révèle au disciple dans la mesure où le disciple est mûr pour saisir. Le maître peut voir et reconnaître le disciple intuitivement et le préparer par tous les moyens possibles et selon son tempérament et sa compétence du disciple, afin que le disciple devienne de plus en plus conscient de la vérité et en même temps prêt à la saisir, à la comprendre. Je vais vous le relire en français. I have read that sickness, disease, did not exist. And that it was absence of good and absence of love, absence of the divine, I would like if it is possible that you would speak of that love. The disease, pain, suffering is there, but it's phenomenal. It has no absolute existence. Il y a la maladie, la douleur, la souffrance, mais c'est phénoménal. Ça n'a pas d'existence absolue. Dans ce sens, on peut dire que c'est irréel, où vous pouvez dire que ça n'a qu'une existence relative. Pour les besoins de l'explication, on peut dire que l'existence est de trois types. 1. L'existence absolue. 2. L'existence phénoménale. 3. L'existence illusoire. Le monde avec la maladie, la souffrance et la douleur expérimentées par les hommes tombent dans la catégorie de l'existence phénoménale. Vous pouvez transcender l'existence phénoménale seulement en étant établi dans la conscience et l'existence absolue. Mais l'existence illusoire peut être transcendé même sans être éveillé ou établi
dans la conscience absolue. L'existence illusoire est comme l'existence du serpent vu dans la corde, ou le rêve d'une personne individuelle. Le monde, avec toutes ses douleurs et ses souffrances, a l'existence phénoménale. Oui. How can I know realization? Meaning that way, how can I be realized? There are different ways and paths to realize your divine, true, and essential nature. At your stage, you cannot have different moyens et chemins pour réaliser votre nature divine, réelle et essentielle. Au niveau où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas d'un seul coup voir et réaliser votre être véritable. Mais par la réflexion et même par la discrimination, le discernement, vous pouvez facilement connaître ce que vous n'êtes pas. En exerçant le pouvoir de votre discernement, vous pouvez arriver à connaître, à savoir que vous n'êtes pas le corps physique, ou que vous n'êtes pas seulement le corps physique, que vous considérez maintenant comme étant vous-même. Aussi, vous devez commencer à respecter votre discernement et essayer de casser la fausse identification que vous avez avec le corps. Si vous pouvez faire cela, et cela peut prendre très 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 longtemps pour le faire, vous aurez franchi un très grand obstacle sur le chemin de la réalisation. Encore en français? Yeah, oui. Excuse-moi, tu peux monter un petit peu la lumière? The frame of my question is the correct pathway, passage, doorway.
Entre être fidèle à son dharma social et familial.
Between to be faithful to one's social and familial dharma.
Et l'énergie, le temps que l'on va, que l'on peut consacrer.
And the time, the energy that we can spend for the search, especially time spent at the feet of sages, near sages.
Alors, je prends un exemple particulier.
I'll take a peculiar example of a mother, of a family mother. In that actual case, that could be my wife. How does Swamiji?
Qu'est-ce que Swamiji peut dire par rapport à cette difficulté de chaque instant?
What can Swamiji say about that every moment difficulty?
D'avoir à répondre aux demandes des enfants notamment.
To have to meet with the children's demands.
De garder le temps et l'énergie.
And to keep aside, to spare time and energy,
qui, de ce point de vue, est un peu un égoïsme nécessaire.
From this standpoint, which appears like a necessary egoism,
pour tenter de mettre en pratique, tenter de
to
le temps de
attend to have time to practice. And all what is implied, like readings, meditation, reflection, introspection, stays with the master and not being with one's family. As Swamiji, there especially an advice.